Les par actualités.
Bonjour et bienvenue à l'émission Les Paractualités du 29 novembre 2017. Hélène Denis qui vous accompagne et en manchette aujourd'hui, la Société pour les enfants handicapés change de cap. Confinée chez elle depuis qu'on lui a volé son fauteuil roulant. 315 000 $ pour les services aux personnes atteintes d'autisme. Les coopératives d'habitation accueillent favorablement la stratégie nationale sur le logement. Et en entrevue, je recevrai Marilyn Turcot, directrice générale de Libre et Sauvage, qui vient de remporter un prix reconnaissance par Altergo, et Doris Provencher, directrice générale de l'AGID SMQ, Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec, qui lance un appel de candidature au prix Orange et Citron en santé mentale 2018. La Société pour les enfants handicapés du Québec, SEHQ, c'est dans le métro aujourd'hui, est en plein repositionnement et souhaite désormais se concentrer sur une clientèle oubliée, les jeunes adultes handicapés. On est en train de réorienter notre mission, indique le directeur général de la SEHQ, Jean Duchesneau. Les services pour enfants sont souvent corrects, mais il y a un urgent besoin en ce qui concerne la clientèle adulte. Ainsi, la SEHQ a adopté un nouveau nom, la Fondation Papillon, et a fermé la résidence Papillon. En mai dernier, après avoir accueilli des enfants handicapés pendant plus de 25 ans pour donner un répit à leurs parents. La fin de semaine, on était toujours complet, mais la semaine, je n'arrivais pas à avoir assez d'enfants pour égaler le coût du minimum de personnel, explique M. Duchesneau. Une ancienne employée, remerciée en mai, impute la fermeture à un manque de financement gouvernemental. Nous étions déjà fermés la semaine et nous n'avions plus que des repas congelés pour réduire les coûts, déplore Mathilde Lafrenière-Côte-Noire, qui s'est dite surprise de la fermeture. Le directeur général convient que la SEHQ ne bénéficie de presque aucun soutien financier du gouvernement. Ce sont des changements dans l'attribution des subventions aux parents qui ont surtout affecté la résidence. Pendant des années, le Centre Marie-Enfant a réservé 5 lits chaque fin de semaine. Mais du jour au lendemain, ils ont décidé de répartir l'argent aux parents. Certains ont décidé de garder l'argent et d'envoyer leur enfant moins souvent. Ce n'est pas parce que tu as un enfant handicapé que tu deviens plus riche, illustre-t-il. Le directeur général est réaliste et ne s'attend pas à ce que de nouveaux revenus tombent du ciel si les services sont centrés sur une population plus âgée. On a les mêmes défis financiers, mais on finira toujours par trouver de l'argent, croit-il. Notre défi est d'offrir le service à la clientèle qui en a le plus besoin. Ainsi, la Fondation Papillon a lancé jeudi dernier un sondage pour savoir sur quel service se concentrer et ne peut pas empiéter sur la mission d'autres organismes. Avant d'aller demander de l'argent, il nous faut un projet, soutient-il. On va peut-être faire un compromis et avoir des activités de jour pour les adultes et de l'hébergement la fin de semaine. Une adolescente handicapée de Verdun ne peut plus sortir de chez elle depuis que quelqu'un a volé son fauteuil roulant de 3 000 $ pourtant attaché devant son immeuble pendant son heure de dîner. L'adolescente de 15 ans est née avec un spina bifida, soit une malformation de la colonne vertébrale, faisant en sorte qu'elle ne sent pas ses jambes. Elle se déplace en fauteuil roulant depuis l'âge de 4 ans. Daphné arrive à faire quelques pas dans le nouveau logement de sa mère à Verdun, mais elle a besoin de son fauteuil roulant manuel dès qu'elle en sort. Mardi, l'adolescente s'est rendue à l'école comme d'habitude. Vers 10h30, elle est revenue chez elle à l'angle des rues de Verdun et Regina pour des soins personnels et se faire à manger. À l'aide d'un cadenas en forme de U, elle a attaché son fauteuil à une clôture devant l'immeuble où elle habite depuis le début du mois. Ensuite, Daphné a monté les escaliers qui mènent à sa résidence du deuxième étage, une marche à la fois, assise sur ses fesses. Lorsqu'elle est ressortie une heure plus tard, le fauteuil roulant avait disparu. Il ne restait qu'un morceau du cadenas. La mère de 35 ans s'est alors mise à parcourir les rues de Verdun à la recherche du fauteuil de sa fille. Elle a placé des messages sur de nombreuses pages Facebook et sur Kijiji en vain. Elle a également porté plainte à la police pour le vol du fauteuil de 3 000 $. À la suite des messages publiés par Liane Christophe sur les réseaux sociaux, Daphné a reçu un fauteuil. Madame Christophe espère toujours qu'on lui rapportera le fauteuil de sa fille. Voler un fauteuil roulant à un enfant? Je ne comprends pas la mentalité des gens. C'est ses jambes, c'est sa vie, s'écrit-elle. C'était sur le site tvanouvelles.ca. Et je m'entretiens maintenant avec Marilyn Turcot, directrice générale de Libre et Sauvage en fauteuil motorisé, cofondatrice de Libre et Sauvage créée il y a 5 ans, parce que Libre et Sauvage vient de remporter le prix reconnaissance Création Mon Rêve d'Altergo. Ça s'est passé la semaine dernière, le 22 novembre. Bravo, Madame Turcot!
Merci beaucoup.
Pour quel projet aviez-vous soumis votre candidature?
Et en fait, Libre et Sauvage travaille actuellement sur un projet de pièce de théâtre qui s'appelle Entre deux et on a remporté le prix pour ce projet.
Et de quoi sera fait Entre deux, justement?
Et en fait, c'est une pièce de théâtre un peu expérimentale qui va regrouper différentes pratiques artistiques, si on veut. Donc, de l'art théâtral à la danse, à l'art visuel, à la musique, et on peut en nommer plein d'autres,
oui,
si on veut.
Un spectacle multidisciplinaire.
Et voilà, avec des membres assez variés aussi. Et on va s'adresser, en fait, on s'intéresse à la thématique de l'incommunicabilité, donc toutes les difficultés un peu de communication, autant émotionnelle à un pan assez large.
Oui, oui. Et qui participe à ce projet et puis quand on va pouvoir le voir aussi?
Mais oui, en fait, on a des artistes, comme je disais, assez variés. Donc, on a des jeunes artistes qui sont autant... étudiants soit en danse, soit en art visuel, en art médiatique, peu importe. Puis on a des gens cette année qui se sont joints à nous, qui sont des personnes de 50 ans et plus, qui habitent dans un OBNL d'habitation, mm-hmm, le Pélican. Donc on a fait un partenariat avec eux. Donc on a vraiment une belle équipe variée.
Oui. Multidisciplinaire et multigénérationnel.
Exactement. Et dont 50% d'entre eux ont des limitations fonctionnelles.
D'accord. Et puis, Entre deux va être présenté quand et où?
On va présenter les premières représentations vont avoir lieu en juin prochain. La date est encore à fixer et on va présenter à la Maison de la culture UNSIC.
D'accord. Et là, vous êtes en plein travail, si je comprends bien.
Oui, exactement. On est en pleine production. Nos artistes se rencontrent jusqu'à présent une fois par semaine pour monter le projet. Et à partir de janvier, on va augmenter un peu la cadence.
Ça se passe bien jusqu'à maintenant?
Oui, ça va très bien. L'équipe est en train de... On est vraiment dans une phase plus d'exploration où est-ce que les gens apprennent à découvrir leurs personnages, à se découvrir eux-mêmes, puis en tant qu'équipe aussi, parce que c'est des gens qui se sont pas... Il y en a qui se connaissent, il y en a d'autres qui se connaissent pas, donc on crée des liens, on forme une nouvelle petite équipe solide.
Une vraie création collective sur
Exactement.
Le thème de l'incommunicabilité. Il y aura combien de personnes sur la scène?
En ce moment, on regarde pour 11 à 12 personnes sur scène.
D'accord. Et quels sont les partenariats que vous avez créés? Pourquoi aussi dans le cadre de ce projet?
Bien, en fait, le projet était, comme à chaque année, on part de rien, si on veut. Donc, quand le projet a commencé à émaner avec un petit noyau d'artistes, donc on était 5 artistes environ qui ont commencé à écrire une pièce, qui ont commencé à penser tout l'univers un peu qu'entre deux va être. Et là, c'est devenu de plus en plus grand parce que nos artistes, au fur et à mesure que les années avancent, les projets deviennent de plus en plus grands, donc on avait besoin d'aller chercher d'autres personnes.
Ouais.
Et en fait, le Pélican est vraiment un organisme qui déborde de créativité et d'énergie.
Qu'est-ce que le Pélican?
En fait, c'est un un OBNL d'habitation dans lequel moi je réside aussi.
Ah oui?
Et en fait, il y a tout un volet plus social, communautaire. Puis, en fait, moi, j'ai fait un lien avec eux parce que je trouvais que c'était intéressant d'aller chercher une autre catégorie de personnes. Puis, on a été vraiment heureux de voir l'enthousiasme qu'il y a eu, tout l'engouement autour du projet par rapport à ces gens-là. Puis, évidemment, bien, on travaille aussi en. On a le support de Altergo pour tout ce qui est soit. Moi, je suis une squatteuse à Altergo, donc j'ai accès à des locaux, à des services de conseil. Donc, c'est vraiment. On est vraiment dans le milieu où est-ce qu'on peut. On peut aller chercher toute l'expertise si on veut.
Et en plus, vous venez de remporter un prix qui est aussi accompagné d'un montant d'argent.
Oui, bien, ça, c'est une belle reconnaissance. En fait, le prix, pour nous, c'est vraiment une hyper de belle reconnaissance parce que les Bruits sauvages travaillent fort à chaque année. Les projets, on veut vraiment que les projets aient une qualité hors pair. Si on
oui,
veut, on
professionnel.
Travaille vraiment. Exactement. Oui. Donc, ça fait du bien, je pense, que pour toute l'équipe, d'avoir cette reconnaissance-là, de savoir que ce qu'ils font, dans le fond, bien, c'est bien et c'est
oui,
c'est ça
donne de l'énergie.
Et voilà.
Et rappelez-nous, en terminant, Mme Turcot, la mission de Libre et Sauvage.
En fait, Libre et Sauvage a pour mission vraiment de favoriser le développement autant des compétences personnelles et sociales par le biais des réalisations artistiques. Donc, vraiment, à chaque année, on bâtit un projet de A à Z avec des artistes qui vont vraiment, à travers ça, bien, apprendre à se développer, à créer des liens, à sortir un peu de l'isolement. Puis en même temps, il y a tout ce côté de sensibilisation-là, comme on travaille avec des gens qui ont des limitations. Donc, c'est vraiment une belle équipe, une belle micro-société inclusive, si on veut.
Alors, qui peut être membre de Libre et Sauvage? Des gens qui ont des limitations, c'est ce que vous avez dit?
Bien, en fait, tout le monde peut être membre de Libre et Sauvage. Nous, ce qu'on essaie le plus, c'est d'avoir des équipes qui sont représentatives à 50 % de personnes qui ont des limitations fonctionnelles.
Mm-hmm.
Mais vraiment, tout le monde qui... En fait, à chaque année, le groupe d'artistes change beaucoup parce que c'est souvent, on part sur une thématique, sur un projet, puis là, bien, c'est les gens qui sont intéressés par ce projet-là qui se greffent à nous. Donc, pour devenir un artiste libre et sauvage, il suffit d'avoir un intérêt pour l'art et la création.
Et vraiment. Justement, si on veut être membre de Libre et Sauvage, comment on procède? On va se laisser là-dessus?
Ben oui, mais en fait, pour devenir membre Libre et Sauvage, on peut aller sur notre super site Internet. Toutes les informations sont disponibles. C'est libreetsauvage.org.
Parfait. Merci beaucoup, Marilyn Turcotte, ou Turcot plutôt, directrice générale de Libre et Sauvage. Et puis encore, bravo pour votre prix. Puis
ben, merci beaucoup.
On s'en reparlera entre deux, puisque vous nous avez dit que les représentations sont prévues pour juin 2018. On aura l'occasion d'y revenir.
Et voilà. Ben merci beaucoup.
Merci à vous. Dans l'écoabitibien.ca, 315 000 $ pour les services aux personnes atteintes d'autisme dans le but d'améliorer les services pour les personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme, TSA. Le gouvernement du Québec investira 315 000 $ par année dans la région au cours des 5 prochaines années. Qui plus est, un montant additionnel de 80 000 $ sera alloué cette année en Abitibi-Témiscamingue. C'est ce qu'a annoncé lundi la ministre à la Réadaptation à la protection de la jeunesse, à la santé publique et aux saines habitudes de vie, Lucie Charlebois, de passage à Val-d'Or. Au total, 29 millions seront injectés partout dans la province pour aider les familles avec des enfants ou des adultes atteints de TSA. Pour l'Abitibi-Témiscamingue, cette aide financière est un soulagement pour les intervenants du Centre intégré de santé et de services sociaux. Les budgets sont de plus en plus serrés, confie Yves Desjardins, président et directeur général du CI3S de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, lorsqu'on reçoit de l'argent comme ça, c'est surtout pour une clientèle un peu démunie et à risque, c'est une délivrance. Rappelons que ces investissements rejoignent le plan d'action sur le TSA 2017-2022. Pas moins de 35 actions ont été choisies pour réduire les listes d'attente et appuyer les services offerts. Pour la ministre Lucie Charlebois, cette annonce vient toucher ses cordes sensibles. En plus des montants envoyés à chaque région du Québec, 1,25 million servira à soutenir la recherche, la formation et la production d'outils d'intervention en lien avec le TSA. Sur le site l'avantage.qc.ca, défi Moi pour toi. Des femmes de la région participeront au défi Moi pour toi, une épreuve qui consiste à parcourir la distance Montréal-Québec, soit 250 km à la course par équipe au profit de la recherche pour les maladies infantiles. 8 femmes, dont 7 de la région, participeront en septembre 2018 au défi Moi pour toi lancé par la porte-parole Chantal Lacroix. Elles forment l'équipe des Crinqués, composée de Véronique Vermette, Monica Bourgeois, Geneviève Thériault, Alexandre Deschênes, Alexandre Guénette, Maude Michaud, Annick Saint-Pierre et Nathalie Gauthier de Belleuil. Véronique Vermette a choisi de se lancer dans l'aventure parce qu'elle se dit très touchée par la cause. « Nous sommes un groupe qui traverse tous les âges et notre but est de se remettre en forme tout en œuvrant pour une cause. Plus de 160 coureurs en équipe de 8 devront amasser quelque 17 000 $ pour leur inscription au défi. » Et l'équipe des Crinqués, comme les autres, devra amasser en plus 4 000 $ ou davantage qui iront en totalité à la Fondation des Étoiles, qui aide financièrement la recherche sur les maladies infantiles, incluant les maladies orphelines. L'objectif total du défi est 80 000 $. Je parle maintenant avec Doris Provencher, directrice générale de l'AGID SMQ, Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec. Bonjour, Madame Provencher.
Bonjour, Madame Denis.
Vous allez bien?
Ben oui, ça va très bien, vous?
Oui, ça va bien. Alors, on parle des prix Orange et des prix Citron avec vous. Dites-nous ce que sont les prix Orange et Citron en santé mentale.
Ben écoutez, les prix Orange et Citron, c'est une initiative de l'association, de l'AGID. Ça existe depuis 1996.
Ah oui, déjà?
Donc, oui, déjà, ça passe vite, hein? alors, ça fait déjà donc 22 ans qu'à chaque année, notre association remet des prix Orange et Citron. Bien sûr, c'est une façon concrète et originale pour permettre aux personnes, parce que c'est sur un vote populaire, donc pour pouvoir permettre aux personnes de se prononcer sur ce que les personnes considèrent les bons coups puis les mauvais coups.
Alors, si on a fait un bon coup, on remporte un prix Orange, et si on a fait un mauvais coup, on remporte un prix Citron.
Vous avez
ça.
Compris, exactement.
Et là, vous faites un appel de candidature. Quelles sont les conditions d'admissibilité?
Ben, c'est ça. Écoutez, il faut de un, ça s'adresse à une personne ou à un groupe de personnes. Ça peut être un organisme communautaire, ça peut être une association ou une institution. Donc, c'est bien sûr que les gens, les organisations peuvent se proposer eux-mêmes. S'ils veulent, ils peuvent être proposés par d'autres. Malheureusement, évidemment, les groupes membres de l'AGID qui font des excellentes choses ne peuvent pas être candidats.
Qui mériterait un prix Orange, selon vous?
Oui, il y en a plusieurs qui en mériteraient.
Ouais, parce que vous faites partie du jury.
Pardon?
Vous faites partie du jury.
Non, je ne fais pas partie du jury parce que le jury, en fait, c'est le vote populaire.
Ah, c'est le vote populaire, d'accord.
Oui, c'est cela. Donc, ce qui arrive, c'est que c'est le conseil d'administration qui est, entre parenthèses, formé majoritairement de personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, donc qui choisissent 3 candidats, Orange et 3 candidats Citron, et qui le soumettent. Ils soumettent ses candidatures au vote populaire. Et donc, c'est vraiment suite au vote, eh bien, celui qui en a le plus, il gagne.
D'accord. C'est parce que je voyais les membres du jury sont les membres du conseil d'administration de l'AGID SMQ. Je croyais que c'était à cause de cela que vous ne pouviez pas poser votre candidature.
Ah oui, non. Ben, sais aussi parce que c'est quand même des prix qui sont remis par l'AGID.
Mm-hmm.
Alors, c'est surtout...
pour ça.
Ça serait délicat aussi.
Oui, oui.
Ah, on comprend.
Oui, il y aurait peut-être apparence
ben, oui, savez,
de conflit d'intérêts. Oui.
Exactement.
Alors, parlons du vote. Comment ça fonctionne exactement?
Ben c'est ça. Donc, nous, il y a une date limite. Les gens posent leur candidature. Le conseil d'administration choisit. Et à partir de là, donc, on rend public les nominations. Alors, par le courriel, par les groupements, bien sûr. C'est vraiment là la mobilisation populaire des organisations qui fait en sorte que les gens se mobilisent pour voter. Je sais que depuis des années, il y a beaucoup de personnes qui l'attendent. C'est comme ils en font presque un jeu là pour le vote, la journée du vote. Les personnes se rassemblent au sein de l'organisme.
J'imagine qu'il y en a qui l'attendent. Il y en a qui le craignent aussi. Cet événement-là.
Bien, écoutez, ceux qui le craignent, on n'entend pas beaucoup parler.
On entend parler s'ils remportent le prix Citron.
Qui oui, avait gagné? Pas toujours. Non. On les entend pas beaucoup.
Non, j'imagine. Qui avait gagné, Mme Provencher, l'année dernière, deux prix?
Oui. Ah, donc, l'année dernière, c'était une personne, une dame, Mme V, qu'on l'a appelée pour la confidentialité. En fait, elle travaillait, donc, et elle avait pris un congé santé mentale. Bon, ça allait pas bien, tout ça. Et, elle voulait revenir de manière progressive à son travail et tout à coup, oups, la description de son poste avait tellement changé que, en fait, elle fut congédiée.
Oh.
Alors, cette dame s'est défendue pendant des années. Elle était d'une grande patience. Je crois, si je me rappelle bien, ça lui a pris 8 ans.
Ah oui.
Elle a fait une plainte à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Et finalement, le tribunal des droits de la personne a condamné l'employeur à lui verser plus de 30 000 $ en dommages matériels.
Ça vaut la peine de se battre.
Ça vaut la peine, il faut être patient.
Pour gagner sa cause et un prix orange.
Exactement. Et le prix Citron, ben écoutez, souvent, ce sont les institutions. Et l'an dernier, c'est l'hôpital de Rimouski qui a gagné.
Parce que,
oui, entre 2014 et 2015, le nombre de séances d'électrochoc est passé de 78 à 460. Donc, c'était une augmentation de 400%. L'hôpital avait expliqué, premièrement, c'est qu'il avait ouvert de nouvelles plages horaires dans les blocs opératoires, parce que vous savez, pour donner des électrochocs, ça se passe, c'est une anesthésie générale, et donc, il faut faire ça dans une salle, un bloc opératoire.
Je savais même pas que
donc,
ça se donnait
il y en
encore.
Avait des nouveaux. Oh, madame, vous saviez pas que ça se donnait encore.
Ben. J'avais un petit doute que oui, là, mais pas de façon aussi spectaculaire. Là. C'est...
Il n'y en a plus, écoutez, il y en a plus de... Ça tourne entre 4 et 5 000 par année.
Ah oui.
Eh oui.
Alors donc, l'hôpital de Rimouski qui a mérité ce prix Citron, est-ce qu'ils ont fait des changements depuis ce temps-là?
Écoutez, ça, j'avoue qu'on a... Je ne pourrais répondre à votre question, mais souvent, vous savez, ça va aller avec soit que l'établissement achète la machine, hein, pour donner les électrochocs, c'est une machine spéciale, ou soit qu'il y a un ou des médecins à l'intérieur qui considèrent que c'est une bonne pratique. Donc, c'est souvent comme ça que les chiffres augmentent.
Madame Provencher, la période de mise en candidature se termine quand?
Ben écoutez, c'est jusqu'au 12 janvier à minuit.
Mm-hmm.
Vous pouvez nous envoyer ça. Je vais vous donner l'adresse courriel.
Allez-y.
Ça va être plus simple. info@agid.org.
Parfait. Et puis, le dévoilement des gagnants aura lieu le mardi 29 mai 2018. On va certainement en parler sur les ondes de Canal M. Doris Provencher, un grand merci.
C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. We'll be right back.
Les coopératives d'habitation du Canada sont ravies du dévoilement aujourd'hui de la stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral qui vise à protéger les membres à faible revenu des coopératives d'habitation et à bâtir de nouveaux logements abordables pour les Canadiens qui en ont besoin. La fin imminente des subventions pour les ménages à faible revenu menaçait plus de 20 000 ménages à faible revenu dans des coopératives d'habitation à l'échelle du Canada, surtout des aînés, des familles monoparentales, des néo-canadiens, des autochtones ainsi que des personnes handicapées. La stratégie renferme des mesures détaillées visant à protéger l'abordabilité à long terme pour 385 000 résidents à faible revenu vivant dans des logements communautaires, y compris dans des coopératives. Après des années d'incertitude, nous accueillons favorablement ce plan détaillé du gouvernement fédéral, décrivant comment il entend protéger l'abordabilité des coopératives d'habitation pour nos voisins à faible revenu, a déclaré Nicole Waldron, présidente de la FHCC. Nous sommes heureux de constater que le gouvernement reconnaît l'utilité de protéger, de préserver et d'élargir nos coopératives d'habitation et nous avons hâte de collaborer en vue de trouver des solutions à la crise du logement. La stratégie comprend des mesures en vue de bâtir de nouveaux logements abordables, y compris l'expansion des logements communautaires. Les coopératives d'habitation possèdent des actifs estimés à 5,6 milliards de dollars et nous sommes bien placés pour appuyer l'expansion des logements coopératifs abordables. La FHCC est la voix nationale du mouvement de l'habitation coopérative du Canada. Elle compte parmi ses membres plus de 900 coopératives d'habitation sans but lucratif et d'autres organismes à l'échelle du Canada. La licence de Canal M 1986, la radio de vues et voix, doit être renouvelée par le CRTC en 2018. Aidez-nous en nous faisant parvenir une lettre d'appui pour réaffirmer au CRTC que nous remplissons un rôle unique et essentiel dans le système de radiodiffusion canadien en offrant une programmation qui répond prioritairement aux besoins d'information des Canadiens en situation de handicap, des bulletins de nouvelles sur le handicap, des émissions d'information et des magazines de services et culturels, etc. En savoir plus, si vous voulez en savoir plus sur notre demande, allez à canalm.vuesetvoix.com. Merci à mes invités, Marilyn Turcot et Doris Provencher. Merci aussi à mon équipe, à la recherche Anne-Laure Janson et à la technique Jean-Sébastien Laliberté. Ici Hélène Denis, merci à vous d'avoir été là et puis on se retrouve demain.